Bonjour Daniel, c'est Paloma de Villers-Cotterêts. En fait, je t'appelais pour te dire que j'adorais ton émission et que comme j'ai 12 ans, bon bah j'ai des projets et que je rêvais de devenir toi en fait quand je serais grande. J'aimerais être journaliste à France Inter. Et que tu nous aies rêvé et que tu nous emportais. Moi qui adore rêver, tu nous emportais dans des pays extraordinaires, voilà. Gros bisous, au revoir.
Violent.
Allô Daniel, c'est toi qui viens de m'annoncer la bonne nouvelle. Donc en janvier, je serai au tribunal et je suis vraiment très contente. Je viens de sortir du travail, j'ai pas pu écouter les infos de la journée. Et je demande à comparaître et je serai fière d'y être et j'y serai. Merci, allez, on y va tous et on continue. Allez, gros bisous, c'est Sylvie Duvas, institutrice et voilà, et maman, et je suis vraiment contente. Allez, ciao.
Bonsoir, Laurent Théron, faucheur volontaire. Je remercie pour aujourd'hui la magistrate et ses aides pour avoir pris une décision courageuse, en faisant abstraction des risques sur leur carrière, comme nous les faucheurs d'ailleurs, et avoir démontré l'indépendance et l'impartialité de la justice. Quand on vous dit que la femme est l'avenir de l'homme, alors pourquoi j'ai fauché? Raisonnons. Les multinationales, dans le contexte actuel de super compétitivité, doivent faire des profits pour devenir plus grosses et ne pas se faire bouffer. Ce ne sont donc pas des offres philanthropiques. Pour faire beaucoup d'argent, pas besoin d'être allé dans des écoles de commerce pour savoir qu'un bon moyen est un marché captif, où les gens doivent venir acheter chez vous. Si de plus, ceux qui doivent acheter ne peuvent s'en passer, jackpot, vous moissonnez un max. C'est exactement ce qui est prévu avec les OGM, un marché captif et vital, la bouffe. Et ça, non, non et non. Nous gagnerons parce que nous sommes déterminés, vu ce que je viens de dire, et surtout nous gagnerons parce que nous sommes solidaires, comme un de ces autres mondes que nous voulons construire. Merci.
Oui, bonjour, c'est Marie-Christine de Strasbourg. Je voulais dire que le 7 de novembre 2004... un jeune militant anti-nucléaire était mort écrasé sous un train. Et j'aimerais bien que cette mort ne reste pas sous silence. Parce que bon, bien sûr, c'est pas le dernier héros des Pyrénées, mais sa vie, elle était forte. Et puis sa cause, elle est noble. Et elle avait pas besoin de martyr, hélas. Voilà. Salut.
Oui, bonsoir à tous. Laurence de Lille. Dans la liste des faucheurs volontaires donc confère les propos de Noël, ma mère, à l'instant, puisque je suis en train d'écouter votre émission, ne pas oublier les 11 ou 12 d'Avelin, dans le Nord, qui ont arraché des plants de betteraves transgéniques. Parmi eux, il y avait deux personnes membres de la CNT, donc pour dire que parmi donc les personnes de partis, de mouvements, il y avait des gens de la CNT, Confédération Nationale du Travail, mouvement anarchiste. Voilà.
J'ai été vraiment enchanté hier d'entendre un scientifique, biologiste qui sûrement fabrique des OGM dans son laboratoire, défendre la cause des faucheurs volontaires. Ça montre bien qu'il n'y a pas une opposition absolue entre d'un côté des scientifiques rationnels qui seraient aussi des visionnaires et de l'autre des militants instinctifs qui seraient obscurantistes. Pour avoir côtoyé ces deux populations, je peux vous assurer que ce ne sont pas les chercheurs qui manifestent la plus grande ouverture au monde, ni ceux qui ont la vision à long terme la plus étendue. Non, la véritable opposition, c'est plutôt entre ceux qui veulent à tout prix faire marcher leur petite boutique personnelle, en s'associant au milieu industriel et financier, et c'est malheureusement le lot de maintenant d'un nombre grandissant de chercheurs, avec la diminution des crédits publics. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont désintéressés et qui demandent seulement que la recherche soit indépendante et respectable. Respectable parce qu'elle prendrait toutes les précautions nécessaires plutôt que de mener des expériences inutiles aux conséquences irréversibles. Et là, je pense évidemment aux essais d'OGM en plein air. De ce côté-là, il y a des militants anti-OGM, mais aussi des chercheurs, comme celui qu'on a entendu hier. Alors, je pense vraiment qu'aujourd'hui, faucher des OGM, c'est aussi essayer d'alerter le monde scientifique sur des pratiques expérimentales qui sont extrêmement discutables, qui mériteraient au moins d'être discutées. Paradoxalement, c'est donc manifester un certain respect pour la recherche, mais pas n'importe laquelle. Voilà, c'était Dominique Béroul, chercheur au CNRS, alias Dôme de Chevreuse, militant anti-OGM dans les champs et dans les assiettes.
Alors aujourd'hui, c'est pas des murmures, c'est le mur que vous entendez et c'est notre bruit de fond. il y a des bruits de forme et il y a des bruits de fond. Et ben ça, c'est le son fondateur de la basse où j'y suis. Et ouais, c'était à Berlin en 1989, il y a 15 ans, et c'était le démarrage de cette émission, on peut dire, au pied du mur. Il y avait là des centaines, pour pas dire des milliers de personnes avec des marteaux qui tapaient sur ce sacré mur de Berlin. Et tout au long du mur, les gens tapaient avec des marteaux et avec des lunettes aussi. Beaucoup portaient des lunettes, louaient des lunettes parce que le béton du mur était si dur que les éclats avaient blessé un certain nombre de ces étranges poules qui picoraient ce mur. Voilà, c'est une image. Alors, pour cette date anniversaire, eh bien, deux sujets pour le prix d'un aujourd'hui. Un échec et une réussite. Le même jour, dimanche, manif antiraciste à Paris et dans certaines villes de France, et qui n'a pas été un franc succès. Et puis le procès des faucheurs volontaires qui s'est préparé dimanche et qui a eu lieu lundi, avec le succès que l'on sait, c'est-à-dire que le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu la responsabilité collective des faucheurs d'OGM, non pas seulement les 9 accusés, mais les 250 qui demandent à être présenter au tribunal. Donc c'est une, on a compris que c'était une bataille qui a été remportée, fragile comme toutes les batailles remportées. Et on va voir aujourd'hui, de l'échec ou de la réussite, dans quoi est-ce que nous allons trouver le plus de grains à moudre, lequel de ces deux événements est le plus riche d'enseignement. C'est la question du jour. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Bah, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel. Écoute, ici en direct de Creuse, je voulais te signaler donc une manifestation qui aura lieu donc le samedi 13 novembre à partir de 10h à l'hôtel de Ville de Guéret. Alors, manifestation pour la défense des services publics organisée par tous les maires et élus de Creuse. Tu dois savoir, enfin, j'espère, que 260 élus creusois ont démissionné de leurs fonctions, donc maires et conseillers municipaux. Ces 260 élus appartiennent à des communes dans lesquelles on va supprimer des perceptions. Donc c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et on est en train de les soutenir activement dans leur action, une action qui nous concerne tous, parce qu'on a le sentiment qu'on est en train de transformer la Creuse et ainsi que d'autres régions rurales en un désert. Donc voilà, si tu peux passer ce message. Donc le samedi 13 novembre, à partir de 10h, l'hôtel de Ville de Guéret, tout le monde est appelé à venir manifester pour la défense des services publics. Bon, Eric, petit maire d'une petite commune de Creuse, petit maire de la commune associée de Gouzounia en Creuse. Salut.
Bonjour, Yann de la Manche. Aujourd'hui, mardi 9 novembre, 7e jour de grève de la faim pour 35 étudiants de l'IUT de Saint-Lô dans la Manche, pour soutenir Sergueï Coït et sa famille, menacés d'expulsion alors qu'ils sont menacés dans leur pays. Ces gens exemplaires qui ont réussi une excellente intégration à la ville de Saint-Lô sont soutenus par toute la population, sauf par le préfet qui refuse de reconnaître leur statut de réfugiés politiques. Rendez-vous tous à 18h ce soir, mardi 9 novembre, devant la mairie de Saint-Lô, pour protester tous ensemble.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Passy, j'y suis avec Olivia Jasbert. Dimanche, un échec, une réussite.
Flight number 2, arriving from New York.
Alerte, alerte, manipulation alerte, génétique, alerte, manipulation alerte, génétique.
José ?
Oui ?
Alors, où en êtes-vous ?
Bah écoute, on vient de vivre un moment tout à fait invraisemblable, tout à fait incroyable. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour le mouvement social en général qui redonne véritablement de l'espoir, puisque cette fois-ci, eh bien, la reconnaissance de l'action collective et de la volonté individuelle des gens d'y participer a été reconnue par un tribunal qui est une première dans l'histoire de la justice française.
trouve qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour le mouvement, pour la révolte. On a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit oui, la bière a un goût de révolte et l'abus de révolte n'est pas déconseillé, quoi.
Et ensuite, pour ceux qui ont de la désobéissance civile, une occasion comme ça, ça ne se rate pas.
Donc c'est une convergence de réseaux, c'est une convergence de points de vue, c'est une convergence d'idées politiques pour mieux être.
Victoire pour les militants anti-OGM, pour les faucheurs volontaires. Hier, victoire, bataille d'un épisode qui, évidemment, la guerre n'est pas gagnée, la guerre n'est pas terminée. Et dimanche, justement, à Toulouse, en discutant avec tous ceux qui étaient là, les faucheurs volontaires, des gens concernés, des militants, gens intéressés par cet énorme sujet qui est la question des OGM, on voyait les impatiences et on voyait les espérances et on voyait les lentes impatiences et les espérances et les désespérances de ceux qui s'engagent sur une lutte, mais à la suite d'une indignation, d'une colère, et qui perdent le souffle assez vite, et que la rancœur parfois gagne, que l'amertume finit par submerger. Et puis les lutteurs de fond, ceux qui savent bien que les choses changent très très lentement. Si l'événement fait l'homme, il arrive que l'homme fasse l'événement, mais si c'est collectif, comme il en est question aujourd'hui, eh ben très souvent, ça demande beaucoup de temps, il faut beaucoup de souffle. Alors, dimanche, donc, rayon de soleil pour les faucheurs volontaires et pour les militants antiracistes qui luttent contre le racisme, c'était un dimanche fort différent, couvert de nuages. Là, il y a une fracture dans le mouvement antiraciste. Aujourd'hui, la fracture est avérée et on va essayer de comprendre pourquoi. Si c'est simplement des tiraillements de personnes ou d'associations, des courants, comme on dit, ou bien si c'est plus grave que ça, et surtout, grave ou pas, qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, de nos engagements, de notre démocratie, et les raisons de cette fracture. Voilà, c'est dans la base où j'y suis, c'est jusqu'à 18h, et c'est sur France Inter.
Fait la collecte des rimes, c'est pour préparer nos combats. C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire à part regarder plus en bas. Et si on mélange nos pleurs dans une mer d'amitié, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Pour de sublimes engueulades, viennent allumer le petit jour. C'est la honte d'un monde malade. Et c'est pour ça qu'encore on courait. C'est pas fini, ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve. Je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve. On laissera pas nos poings mourir. Et vous êtes en timidité, tellement que vous aimez les autres. Pas besoin de vous imiter, parce que je vous aime, c'est vous mes autres. Quand la folie dévaste tout, on voyage par petits bouts de phrases, un tour de terre en rien du tout. C'est notre cafard qu'on écrase, quand on prend le temps de s'asseoir au comptoir des quand même contents. On se dit que ça s'appelle l'espoir, on se dit qu'on a encore du temps. Et que c'est pas fini et que ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos poings mourir. À l'attaque.
Ma maman, elle est là. Parce qu'elle est venue, parce que c'est pas bien le racisme. Le racisme, c'est quand il y a des gens qui aiment pas les comparants comme les Noirs ou les Arabes, comme ça, c'est ça le racisme.
Tu t'appelles comment?
Fatima.
petite voix dans cette manif dimanche à Paris où l'on marchait contre le racisme. Alors contre le racisme, ben on est tous d'accord, on est tous unis, on est tous ensemble évidemment. Eh ben non. Dimanche 7 novembre, si la manif antiraciste a fait reculer le racisme et l'antisémitisme et toutes les discriminations, elle a aussi montré une rupture entre les antiracistes et les antiracistes. Eh oui, on le sait, c'est quand même à l'intérieur de la famille qu'on se déchire toujours le plus joyeusement et souvent à l'intérieur du parti, à l'intérieur du syndicat, eh bien on s'épuise davantage en luttes intestines qu'en luttes ouvrières. Et les luttes intestines, eh bien ont le résultat prévisible que l'on sait, résultat qui porte bonheur à celui qui marche dedans du pied gauche ou du pied droit ou du pied d'extrême droite, c'est-à-dire précisément à l'adversaire qu'on entend combattre et qui rigole dans sa barbe diabolique. Sauf que cette fracture ou cette rupture, en tous les cas cet antagonisme entre les associations antiracistes, notamment entre le MRAP et SOS Racisme, raconte beaucoup de choses sur notre époque et notre société. Entre autres que le consensus antiraciste est aujourd'hui traversé et déchiré par cette étrange théorie du choc des civilisations qui dit « toi barbare, moi civilisé ». Et ce qui peut se traduire par « toi bougnoul islamiste, moi blanc judéo-chrétien ». Un autre point, c'est évidemment l'affaiblissement du rôle fédérateur de l'État, le déclin des valeurs intégrationnistes républicaines, ce qui évidemment favorise le communautarisme, chacun défendant son propre capital victimaire en luttant contre ses propres adversaires. Et puis, il y a aussi, entre autres, le conflit israélo-palestinien, chacun s'identifiant à l'un ou l'autre camp en présence, ce qui alimente les passions et, entre autres, réveille les contentieux anciens qui sont toujours vivants, présents dans notre société et ravive les blessures du temps, du beau temps, du joli temps des colonies. Bref, ligne de fracture, ligne de rupture apparue. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui dans cette manifestation avec Olivia, mais sans prendre parti passionnément, en essayant de comprendre d'une manière un peu pédagogique, pour tout dire, ce qui se passe, les enjeux. Évidemment, on n'épuisera pas tout ce qui est enfoui sous cette fracture, mais au moins pourra-t-on essayer de comprendre les enjeux, les différences, ce qui divise, ce qui, évidemment, pense et voudrait être unis. Alors, on est avec Bernard Dréano dans cette manif. Et Bernard Dréano est un militant qui est un fonctionnaire du ministère du Travail et qui est passionné par ces questions. Il fait partie du CDTIM et il est un observateur très attentif et calme, disons. Et c'est ça qu'on a voulu, c'est quelqu'un de calme et d'assez pédagogique pour nous expliquer ce qui se passe autour de nous dans cette manif de dimanche dernier.
L'idée, au départ, une idée de la Ligue des droits de l'homme, qui était l'idée d'essayer de faire une unité la plus large des associations et des mouvements contre tous les racismes, en prenant en compte les particularités du racisme en France. L'appel unitaire est donc un appel contre tous les racismes et toutes les discriminations, et qui est un appel explicitement contre l'antisémitisme et tous les racismes, puisqu'il a paru justifié aux organisateurs de considérer, compte tenu de l'histoire française, compte tenu aussi de ce qui se passe, il faut souligner l'importance historique de l'antisémitisme en France. Alors évidemment, il y a un certain nombre de gens qui participent à cette manifestation, et des gens d'ailleurs qui n'y participent pas à cause de ça, qui disent qu'il n'y a pas de raison de faire de hiérarchie entre les victimes, par exemple, et de hiérarchie entre les racismes. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit une question de hiérarchie. Il y a une question d'identifier des spécificités, parce qu'on ne combat pas les différentes formes de racisme de la même manière. On ne combat pas l'homophobie de la même manière que l'islamophobie, bien sûr, par exemple. Et donc, moi, ça me choque pas qu'on donne une place particulière à l'antisémitisme. Ce qui me choquerait, c'est qu'on en fasse quelque chose de complètement séparé de la lutte contre tous les racismes, ce que malheureusement ont tendance à faire des organisations comme la LICRA ou SOS Racisme. À partir de là, il y a eu une rupture entre la Ligue des droits de l'homme et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, MRAP d'un côté, et SOS Racisme et la LICRA hein, de l'autre. Cette rupture date d'il y a 4-5 mois à peu près. La raison qui a été dite par la SOS Racisme et par la LICRA était qu'ils n'étaient pas d'accord avec le texte d'appel parce qu'ils voulaient que la place de l'antisémitisme soit beaucoup plus prédominante. Et donc ils ont dit, dès juillet dernier, à ce moment on ne parlait pas du OIF, ils ont dit il n'est pas question qu'on signe ce texte. Le texte était déjà le fruit d'un travail entre de multiples organisations, et donc les organisateurs ont dit non, le texte, c'est ça le degré d'unité maximum entre la majorité des gens. Si vous n'êtes pas capable de faire comme tout le monde des concessions pour arriver à un point commun, y a un problème. Et c'est donc à ce moment-là que SOS Racisme et la LICRA ont décidé de ne pas participer à la manifestation. Plus tard, ils sont revenus en disant non pas qu'il fallait changer le texte, mais qu'il fallait exclure certains des gens qui avaient signé le texte. Mais c'est plus tard. Il était admis dès le départ que aucune organisation signataire du texte, à partir du moment où elle acceptait la discipline commune, ne serait exclue.
À la même droite, à l'éducation, dans tous les quartiers, dans toutes les régions.
Alors, je ne crois pas que ce soit sur l'antisémitisme qu'il y ait des différences, parce que l'ensemble des associations antiracistes sérieuses savent qu'il y a eu Vichy en France, savent qu'il y a encore des traces profondes d'un passé antisémite malheureusement fort, même si heureusement l'antisémitisme populaire a beaucoup diminué, savent qu'il y a des nouvelles formes d'agressivité entre communautés, en partie dues à la situation du Proche-Orient, mais aussi dues à l'histoire coloniale de la France, tout ça, et donc qu'il y a des formes de judéophobie, comme on dit quelquefois maintenant, et on voit bien avec les profanations de cimetières ou de synagogues, choses comme ça, qui nécessitent une riposte ferme et sans hésitation. C'est pas sur l'antisémitisme qu'il y a la différence, c'est sur l'islamophobie. C'est-à-dire une organisation comme SOS Racisme nie qu'il y a des formes de discrimination spécifiques qui touchent les musulmans en tant que tels.
Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une résurgence du conflit israélo-palestinien qui se répercute en France sur le mouvement antiraciste?
Il y a un aspect comme ça qui peut être la résurgence du conflit israélo-palestinien, mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Il y a un climat général accentué par le 11 septembre, par tous les gens qui propagent l'idéologie de la guerre des civilisations. Il y a aussi l'existence de courants intégristes chez certains musulmans, l'existence de courants intégristes juifs, hein, et donc des agressions de part et d'autre. Tout ça contribue à exacerber les tensions. Mais il y a aussi des événements oubliés. Par exemple, dans les affrontements qu'on a aujourd'hui, quelquefois dans les banlieues, entre Foj et Beur, pour utiliser un vocabulaire contemporain, il y a quelque chose qui fait penser à des affrontements familiaux. On oublie toujours que la majorité des juifs de ce pays, ou des gens qui se réclament du judaïsme, viennent d'Afrique du Nord, et la majorité de cette majorité vient d'Algérie, comme la majorité des musulmans. Je dis toujours, on a des affrontements de banlieue qui sont un petit peu l'affrontement entre David Ben Saïd, dont le père était un juif de Constantine, et Mohamed Ben Saïd, dont le père était un musulman de Constantine. Or, cette histoire, l'histoire de la colonisation française, l'histoire de l'Algérie, l'histoire du Maroc et de la Tunisie, l'histoire des juifs dans ces pays, a jamais été racontée en France. Et même à l'intérieur des familles, il y a des non-dits, ça véhicule tout un tas de stéréotypes dans les familles même, hein, qui viennent compliquer les choses, et il faudrait mieux en parler plutôt que de les cacher. Un des problèmes, c'est qu'on n'est pas contre l'extrême droite, là. On est contre un racisme social qui est évidemment exprimé aussi par l'extrême droite, mais là, on n'est pas en train de faire une manifestation contre le Front National, on est en train de manifester contre mille et une formes de racisme. Et donc, c'est déjà un peu plus compliqué, parce que chacun est obligé de faire une introspection sur le racisme dans sa propre mouvance, y compris. Hein. Par exemple, j'ai cité les organisations musulmanes, et bien évidemment, il y a des sentiments antifoges à l'intérieur des jeunes musulmans. C'est pas un mystère, les organisations musulmanes le savent très bien, et elles commencent à lutter contre. La réciproque est vraie d'ailleurs chez les jeunes juifs. Donc c'est plus compliqué. Et donc évidemment, chaque spécificité, chaque tribu va un petit peu se replier sur sa pensée d'origine. Ensuite, il y a des divergences, une nouvelle situation de polarisation qui est due à deux problèmes. La polarisation des choses avec l'échec des négociations de paix israélo-palestiniennes sur le front du Moyen-Orient, et puis l'énorme vague de propagande qui s'est développée autour du thème de la guerre des civilisations après le 11 septembre, et qui touche y compris la société française.
Moi, je regrette que certaines associations qui se disent antiracistes aient privilégié les prises de position quant à la politique de Sharon par rapport à la prise de position essentielle ici qui devrait faire l'accord de tous, à savoir descendre dans la rue contre le racisme. Ou c'est un problème de mots, c'est absurde, mais malheureusement, ceux qui sont absents aujourd'hui en font pas un problème de mots. Il faut appeler un chat un chat. C'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui soutiennent à fond la politique de Sharon en Israël et qui font régner, je dirais pas un terrorisme intellectuel, mais un petit peu, qui vise à criminaliser, sous le vocable d'antisémite, tous ceux qui s'opposent à la politique de Sharon. Moi, je trouve ça inadmissible. Parce que franchement, en dehors de SOS et du CRIF, les 4/5 des organisations syndicales, politiques, associatives sont aujourd'hui dans la manifestation.
Alain Krivine, rencontré dans la manif de dimanche à Paris, manif contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination, avec pour affirmation vivre ensemble, libre, égaux et solidaire, sauf que il y a rupture, il y a au moins controverse, sinon rupture, entre des courants antiracistes, comme Bernard Dreano est en train de nous l'expliquer, tout en marchant dans cette manif. Donc il y participe, hein, c'est pas un observateur éloigné ou en haut d'un quelconque donjon. Non, il est dans cette manif, mais il essaye de nous expliquer les enjeux, les controverses, les origines de cette rupture. Quelqu'un d'important dans cette affaire, c'est Michel Tubiana, qui est secrétaire de la LDH, Ligue des droits de l'homme.
Je déplore que certains aient fait le choix de préférer s'isoler au bénéfice d'une soi-disant pureté qui n'avait pas lieu d'être. Et je souhaite que SOS Racisme puisse retrouver les marques d'un antiracisme plein et entier, qui ne favorise aucune manifestation de racisme par rapport à une autre, et puisse nous rejoindre, la porte est ouverte. L'antisémitisme a une histoire à part dans ce pays, une histoire bien précise, qui est liée à l'attitude de la France, qui est liée pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est liée à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et autant la réponse à toutes les manifestations de racisme doit être commune et universelle, autant nier les spécificités de chaque forme de racisme serait une imbécilité et grave. Chaque manifestation de racisme répond au même ressort, mais à ses propres spécificités. Je pense que, par exemple, ce qui concerne le racisme anti-arabe ou anti-musulman, qui est un terme que je préfère à islamophobie, il est profondément lié à l'histoire coloniale de la France, une histoire qui est encore peu enseignée et totalement méconnue, comme l'antisémitisme est lui lié à une tradition malheureusement encore beaucoup plus ancienne, qui touche d'ailleurs toute l'Europe. En tout cas, pas de mon côté, pas de notre côté. La question du conflit israélo-palestinien n'a pas à inférer sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Si certains croient déterminer leur position par rapport à cela, et je pense par exemple au CRIF, c'est son problème. Mais il donne à ce moment-là une image extraordinairement réducteur de la communauté qu'il prétend représenter, dans la mesure où il identifie lui-même les Juifs de France au soutien de la politique du gouvernement de M. Sharon, ce qui me paraît hors de propos.
La pomme de discorde s'appelle UOIF. UOIF, c'est évidemment l'Union des organisations islamiques de France, représentée dans la manif par Fouad
Alaoui, et bien sûr que tout se passe autour de la question de savoir si les islamiques peuvent être présents ou non dans cette manifestation. SOS Racisme et l'ICRA disent non. On a entendu ceux qui disent oui, et voici Fouad Alaoui.
Fouad Alaoui, secrétaire général de l'OUIR.
Votre présence ici a été contestée par certains, c'est un peu la première question qui s'impose. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
C'est pas ça qui me dérange. Vous savez, être contesté, c'est, ça me poussera encore plus à aller vers l'avant. Parce que nous sommes des gens de principe. Pour ça, moi, je dis que ceux qui disent on veut pas manifester, en réalité, ils cachent leur incapacité de mobiliser tout seul. Et maintenant, je pense que le moment est venu. C'est un moment de choix historique. Ou ceux qui ont dit que notre leitmotiv et notre raison de création, c'est la lutte contre le racisme, et qui sont absents d'une manifestation contre le racisme, ils auront à répondre de ce geste-là. On peut avoir des pics de croissance, et on peut avoir des pics de décroissance. Je pense que certains mouvements sont dans un pic de décroissance.
Vous, ça vous a pas fait titiller que dans le texte de l'appel unitaire, le mot antisémitisme ne soit pas inclus dans toutes les autres formes de racisme ?
Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tant que le texte, il parle d'un certain nombre de mots, et que nous avons dit qu'il fallait ajouter à ces mots-là l'islamophobie montante, ça me dérange pas si l'ensemble de la nation considère que l'antisémitisme, il faut le combattre, et bien je dis que pourquoi pas. Mais ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas exclusif. Je pense qu'il faut pas faire de la différence entre les deux notions. Je pense que celui qui est antisémite, il sera nécessairement islamophobe. Je pense que nous, notre position doit être une position de principe sans équivoque, sans calcul politique, sans position partisane. C'est que l'homme, lorsqu'il arrive à un certain moment où il haït un autre homme, tout simplement parce qu'il est porteur d'une religion qui est différente de la sienne, ou d'une idée qui est différente que la sienne, c'est là que le danger vient.
Il ne faut pas faire de hiérarchie pour vous. Hein.
Non. C'est comme si on voulait dire hiérarchiser la peine, hiérarchiser le malheur. Non, un homme qui a de la peine, qui a du malheur, c'est un homme qui a de la peine, qui a du malheur. On n'a pas besoin de faire des étages pour comprendre. Bien sûr, l'histoire de France est plus spécifique concernant donc l'antisémitisme, hein, mais elle est en même temps spécifique concernant l'histoire de la colonisation.
Donc aujourd'hui, le slogan de l'UIF, c'est quoi ?
Tous ensemble, unis contre tous les racismes, l'islamophobie et l'antisémitisme.
Alors là, on est au cœur du problème sur la spécificité des racismes, sur la singularité des racismes. C'est une vieille controverse, une controverse déjà ancienne, et qu'on voit ressurgir dans les rues dimanche dernier, qu'on a vu ressurgir dans les rues dimanche dernier d'une manière extrêmement, extrêmement vive et extrêmement douloureuse pour ceux qui considèrent qu'il y a des différences, pas nécessairement des hiérarchies, mais des différences, et qu'il est difficile visiblement aux uns et aux autres d'aller au fond des raisons de ces souffrances et de ces malheurs. C'est des affaires très difficiles qui relèvent vraiment des valeurs, de la réflexion, de la philosophie, et qui ont beaucoup de mal à évidemment trouver leur solution dans des affrontements, et sans doute encore moins dans des affrontements de rue. On continue donc avec Bernard Dréano. Je rappelle qu'il est fonctionnaire au ministère du Travail, qu'il est animateur au CDTIM et militant à Une École pour Tous. Il est proche de la Ligue des Droits de l'Homme, et il a ce regard assez, disons, assez pédagogique sur cet antagonisme.
Stop, stop, stop ! Solidarité contre les exclusions !
Il y a une spécificité historique dans l'antisémitisme nazi. C'est-à-dire, l'antisémitisme nazi a des racines, c'est pas seulement les Allemands, hein, parce que les Français ont quand même contribué à créer un antisémitisme moderne, parce que c'est un racisme qui prétend se fonder sur la science, qui est exterminateur, et qui est même suicidaire. Hein. Par exemple, l'antisémitisme nazi a consisté, en détruisant les Juifs, à détruire la culture allemande. dans l'Europe centrale. Ça, c'est très spécifique. C'est pas la même chose qu'un affrontement entre communautés, par exemple les affrontements entre gens d'origine maghrébine aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose d'assez classique, malheureusement, la vie des pays. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut résoudre. Mais il y a une spécificité particulière d'une histoire de l'antisémitisme qu'il faut prendre en compte, oui, parce que la Shoah, c'est pas n'importe quel génocide.
Une singularité de l'islamophobie ?
Ah, il y a une singularité de l'islamophobie, notamment parce que, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a cette histoire de guerre des civilisations. C'est-à-dire des idéologues, y compris français, ou des journalistes, qui accréditent sans cesse l'idée que, quelque part, l'ennemi, c'est l'islam. Pas les islamistes, pas tel ou tel courant existant dans le monde musulman, mais l'islam. Et évidemment, ça réveille des vieilles réalités, pour pas remonter aux croisades, aussi, dans le cas français, au fait qu'on a colonisé des pays musulmans, et qu'on n'a pas vraiment complètement réglé cette affaire entre la France et ses colonies. Et donc, il y a une singularité. Mais on va trouver des problèmes qui se gèrent de manière différente dans d'autres pays, par exemple, qui ont eu la même histoire, comme l'Angleterre ou des choses comme ça. Donc, je suis d'accord pour dire d'un côté il y a spécificité, de l'autre côté il y a singularité, mais peut-être on joue un peu sur les mots. Alors pour le moment, on n'est malheureusement pas vraiment en train de mettre de côté les clivages, on est plutôt en train de les exacerber. C'est peut-être la difficulté de l'instant, parce que moi je vois des choses qui sont à plus long terme. Par exemple, on a des organisations musulmanes en tant que telles, se réclamant de l'islam, qui maintenant vont vers l'unité antiraciste, se posent la question de l'antisémitisme que très franchement ils ne se posaient pas même il y a encore quelques années. Et ça me semble une démarche très positive. C'est-à-dire c'est une démarche de décloisonnement en réalité, mais elle produira ses effets que progressivement. Un des motifs de la non-participation de SOS Racine, c'est la participation du collectif des musulmans de France et de l'Union des organisations islamiques de France à la manifestation. C'est un des motifs qui est apparu tard d'ailleurs, hein, la divergence, le refus de participer à la manifestation date de bien avant que ces organisations aient manifesté leur volonté de participer au front antiraciste. Mais c'est intéressant de voir exactement de quoi il retourne. Vous avez d'abord le collectif des musulmans de France, qui est un groupe de jeunes essentiellement, venant des cités, qui a commencé un travail d'insertion dans les organisations de la société civile française comme une des composantes de la société civile française dans son ensemble, et aussi de travail sur lui-même, par exemple, avec les organisations juives. J'en veux pour preuve une rencontre récente entre l'Association des Rabbins pour la Paix et le collectif des musulmans de France, par exemple. Et évidemment, ça a un petit peu titillé une organisation beaucoup plus importante qui est l'UOIF, qui se sont un petit peu concurrencés par les jeunes du CMF, et qui finalement a décidé de partir dans la même direction. On verra ce que ça donne, mais il me semble que la dynamique va dans le bon sens de toute manière. Et ces dynamiques de rencontres entre des organisations très diverses, certaines sont progressistes, d'autres sont plutôt conservatrices, c'est ça le vrai enjeu, c'est comme ça qu'on combat le racisme.
Graines scientifiques que l'on sème pour créer la plante suprême, toutes ces substances à base de chêne. Vous voudrez me laisser pousser dans le veuve. J'avale les nations qui n'envoient pas en prison. Ce vieux crouton chilien qui survit grâce à son pognon. Toutes ces belles discussions transmises par une télévision qui vogue sur l'audimat de la désinformation. Et les frères, au début de millénaire, n'a pas chaud de l'autiche, chaud tueur, d'oiseaux migrateurs. Tous ces grands meneurs qui pensent être les meilleurs dans leur propre combat qui stérilise notre bonheur. J'avale les plus-values des gens conçus qui gèrent nos revenus, qui drivent nos rues, nos villes, la sécu, qui tuent la démocratie à force d'être corrompus.
Oui, une chanson qu'on aurait eu du mal à entendre il y a quelques années quand même. Hein. Vous vous souvenez de Jean Ferrat qui parlait du poulet aux hormones dans les années 60. La question de la malbouffe, la question de l'empoisonnement était une grande affaire qui s'est développée, qui aujourd'hui inquiète beaucoup. Nous inquiète beaucoup, nous tout simplement, dans nos vies quotidiennes, comme de consommateurs, de bons vivants ou de, à travers les OGM qu'on retrouve dans les aliments. Alors on va en parler avec quelqu'un de Greenpeace qui va nous donner des renseignements pratiques, comment se défendre, comment les repérer, où sont-ils et comment lutter. Auparavant, on va retrouver les faucheurs volontaires ce dimanche à Toulouse. Ils ne savaient pas encore, les bougres, la victoire d'étape qui les attendait le lendemain, c'est-à-dire hier, au tribunal correctionnel de Toulouse, où 9 de ces faucheurs volontaires étaient prévenus, et leur argument était de dire « oui, mais nous n'étions pas seuls, nous n'étions pas que 9 ». Et effectivement, 250 autres de ces faucheurs volontaires ont dit « mais nous voulons, nous aussi, être jugés ». Et, surprise attendue et espérée, la présidente du tribunal a dit « bah oui, en effet, il faut que tous soient jugés ». Alors voilà, pour l'instant, le procureur a fait appel, mais en principe, le procès aura lieu le 24 janvier prochain. Donc c'est évidemment un épisode particulièrement passionnant, parce que ça veut dire que bien la justice reconnaît le caractère collectif d'une action militante et syndicale comme celle-là. Mais revenons aux OGM et revenons à ce qui s'est dit ce dimanche concernant les OGM et ce que les OGM représentent pour les paysans. Il y a en France les petits paysans, et puis il y a les grands céréaliers relèvent de l'industrie agroalimentaire. Ce que les OGM représentent pour les uns et pour les autres.
Oui, François Dufour, bonjour, je suis paysan dans la Manche.
Pour un paysan, entre OGM ou pas OGM, quelles sont les pressions, quelles sont les tentations? Parce que nous, on est en train de dire on ne veut pas d'OGM. Qu'est-ce que ça représente pour le paysan, pour l'agriculteur?
Ben d'abord, il y a une information qui a été donnée au grand public et surtout à la paysannerie via les colporteurs de coopératives ou de maisons de semences. C'était de dire que, un, les OGM permettraient de consommer moins de pesticides. Deux, ça donnerait un meilleur rendement dans les campagnes, un meilleur rendement de grains notamment, que ce soit du maïs ou du blé. Trois, c'est une semence qui coûterait moins cher, et puis qu'en même temps, on pourrait nourrir le tiers-monde. À partir du moment où on a intoxiqué les paysans avec une démarche comme celle-ci, ben, je dirais qu'il faut remonter la pente pour arriver à leur faire comprendre que tout était faux. C'est une articulation de mensonges qui n'est pas facile à relever. Alors, aujourd'hui, beaucoup de paysans ont compris quand même que les OGM aux États-Unis ou ailleurs aujourd'hui permettait de consommer beaucoup plus de pesticides que par le passé. La première année, c'est peut-être équivalent, mais après, on en consomme plus. Que deux, c'est surtout aussi de faire comprendre que les semences coûtent beaucoup plus cher, et puis que finalement, on n'a rien réglé au problème de la faim dans le monde. En fait, les OGM servent surtout à introduire la monoculture, comme on a introduit la monoproduction de cochons ou de volailles dans des bâtiments hors sol, à vitam aeternam. Donc, c'est surtout fait pour les zones de grande culture qu'on essaie de passer en force ces OGM. Je crois que ce qu'il faut vraiment que les paysans comprennent, c'est qu'ils n'ont absolument pas d'intérêt.
Quand tu dis paysans, tu parles à tous les paysans, y compris les agriculteurs, enfin les grosses boîtes, ou que les petits paysans de la Confédération paysanne.
Je dirais que les petits paysans ont compris, en général, l'enjeu. Les gros producteurs de céréales qui fournissent les lobbies d'exportation, eux sont intoxiqués par le discours, et en plus les grands groupes vont leur proposer 20 ou 30% de semences gratuites pour introduire les OGM chez eux. Tu produis 500 hectares de maïs, tu consommes 2 doses de maïs à l'hectare, ça te fait 1000 doses de maïs. Déjà, tu as une grosse remise de quantité sur le volume que tu prends. Et en même temps, la firme va te dire, on va te donner 50 doses la première année gratuitement. Autrement dit, 50 doses à 600 ou 700 francs la dose, eh bien, c'est un bon pactole, c'est un bon chèque. Et donc, on introduit les OGM dans le sol avec des semences gratuites. Et pour le paysan, il fait ce premier compte-là. Et quand on a introduit les OGM dans le sol, non seulement on a mis le doigt dans l'engrenage, on est complètement dépendant de la firme parce qu'on doit utiliser des molécules chimiques qui viennent de la même firme qu'on donnait les semences, mais ensuite, on a provoqué une irréversibilité dans les sols, puisque là, on a introduit des risques de pollinisation, Et donc ensuite, à partir du moment où les sols sont intoxiqués, je dirais qu'il va falloir toujours utiliser plus de produits chimiques et en général retourner à la même maison de semences l'année d'après. Donc c'est vraiment un don au départ qui est donné sous forme de pression. Et le paysan, quand on touche à son portefeuille, il dit, ben, j'accepte.
Ouais. Quand tu parles de risque de pollinisation, ça veut dire que moi, dans mon petit jardin à côté, je vais être touché par les OGM.
Bien sûr, puisque toutes les plantes, effectivement, fleurissent, y compris les maïs hybrides. Et quand elles fleurissent, ça veut dire qu'elles exportent à un moment donné par le vent, par les abeilles, par les insectes ou par les oiseaux, eh bien, le pollen tout autour. Et ce qu'on a oublié de dire aux paysans, c'est que lorsqu'on a introduit un gène d'une molécule chimique dans une semence, au moment où la graine produit cette plante, ses fleurs et ses fruits, on retrouve une partie de ce gène, et donc de ces molécules, jusque dans le fruit, jusque dans la fleur, jusque dans le pollen. Et quand tout ça part dans la nature, non seulement on intoxique les champs des voisins, ça veut dire que les OGM interdisent toute autre forme d'agriculture. Donc c'est vraiment une forme, on pourrait dire, dictatoriale. Et deuxièmement, on ne s'est jamais posé la question que ce fruit, qui peut être un grain ou qui peut être un fruit, qui va être consommé dans l'estomac des vaches pour produire du lait ou de la viande, on n'a jamais voulu analyser les conséquences que ça aurait. Là aussi, il y a une inconnue. Et je pense qu'on va retrouver des victimes qui sont à l'autre bout de la chaîne des consommateurs.
Quand on dit, oui, mais les OGM aident le tiers-monde, c'est un moyen pour le tiers-monde, pour les pays en développement, de se sortir du sous-développement.
Alors, les firmes...
C'est l'argument de George Bush, par
exemple. Voilà, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit à ces petits paysans de certains pays du tiers-monde, écoutez, vous avez des semences rustiques, d'accord, mais vieilles, dépassées. Aujourd'hui, on a beaucoup mieux, voyez. Alors, introduisez donc 20 à 30% de semences génétiquement modifiées dans vos parcelles. On vous les donne même la première année. On peut même échanger des semences autochtones avec des semences génétiquement modifiées.
Modernisez-vous, collègues.
Modernisez-vous. Mettez le pied sur l'accélérateur et puis, écoutez, mon brave monsieur, vous êtes dans le tiers-monde. Mais si vous avez un peu plus de production, vous pourrez mieux nourrir le village et en même temps, il y a une petite part que vous allez exporter sur le marché mondial. Donc, vous allez même pouvoir participer aux échanges internationaux. Donc, on appâte le paysan en lui expliquant qu'il va devenir un grand chef comme celui qui est installé dans la Beauce avec 1000 hectares de blé. Alors, quelque part, on introduit le ver dans le fruit. Et le paysan dans ces régions, à partir du moment où il a introduit ces nouvelles semences qu'il ne pourra pas ressemer, parce qu'en général ce sont des semences qu'on ne peut pas ressemer, on l'a vu avec la technique Terminator, où la semence ne peut se reproduire, et bien là le paysan est devenu l'otage des firmes. Et c'est comme ça que les firmes sont en train de dire, on peut nourrir le tiers-monde, on peut participer à l'expansion économique de ces régions du monde, mais surtout, on peut mettre la main sur le paysan et sur la biodiversité de la plupart des régions de la planète.
Mais elles vont être fabriquées comment, ces semences, à la fin?
Il est bien certain qu'avec les accords sur le commerce, et notamment les risques de brevets sur ces semences, puisque toute nouvelle variété qui sortirait d'un transfert de gènes, qui devient donc une invention, la firme peut en faire un monopole, avec notamment la mise en place des brevets.
Oui.
Donc, à partir de ce moment-là, le contrôle de la semence se fait par la firme,
oui.
Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de possibilité pour les paysans, ni de les échanger, ni de les reproduire. Eh bien, on est en train d'envahir la planète avec cette mono-industrie qui est une industrie de la mort. Et je pense que pour les firmes aujourd'hui, c'est un moyen de ne plus du tout appliquer la souveraineté alimentaire. On fera de la mono-production, de la mono-industrie de semences et de production alimentaire dans un certain nombre d'endroits. Quand on aura épuisé les sols ou que la population commence à se lever contre cette destruction, on délocalisera la production comme on délocalise des usines pour la faire ailleurs, là où le peuple dira « moi je prends malgré les problèmes environnementaux parce que j'ai faim ». C'est clair.
Il n'y a pas que sur l'alimentation, il y a sur toute la nature, parce qu'il y a aussi des arbres transgéniques maintenant, des peupliers, des eucalyptus, tout ça. C'est pas seulement les plantes alimentaires, c'est aussi de faire une mise sur tout.
C'est la prise de contrôle de la biodiversité pour la tuer, pour imposer ensuite cette industrie chimique mondiale. C'est une dictature vachement dangereuse. C'est une main invisible qui a pénétré à travers l'OMC et qui est en train de prendre en otage l'ensemble, non seulement du vivant de la planète, mais je dirais de tous les espaces de vie, toutes ces régions du monde, pour ensuite, je dirais, mettre totalement sous contrôle et financier et technique le cœur de chacun.
Sauf que, sauf que la main invisible, bon, on la voit très bien dans la basse si j'y suis. Merci à tous. Merci à François Dufour, merci à Bernard Dréano. C'était Olivia Gesbert, la reporter pour cette manif de dimanche dernier. Pour soutenir ou s'informer sur les faucheurs volontaires, c'est www.monde-solidaire.org. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la basse si j'y suis en allant sur franceinter.com, France Inter tout attaché. Patrick Henry et Gaëtan Colli, c'était les techniciens aujourd'hui. Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de la basse si j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est le 01 56 40 37 37. Ce que vous entendez derrière ma voix, c'est le mur de Berlin il y a 15 ans. Un de nos premiers reportages dans la basse si j'y suis en novembre, je crois, novembre ou décembre 1989. Voilà, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h pour la basse si j'y suis. Après la réclame, vous allez avoir une petite tranche de réclame et après ça, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut.